bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Arnaud Lereux. Bonjour Arnaud.
Bonjour tout le monde, bonjour Pascal.
Et Arnaud, tu viens nous parler aujourd'hui d'un nouveau produit qui s'appelle Microsoft Advanced Threat Analytics, ATA, de son petit nom.
Et tant qu'à faire se peut, on va faire ça plutôt concrètement.
Exactement.
Alors, concrètement, Pascal, est-ce que tu connais la différence entre un WebA et un CIEM ?
Oula, un CIEM, je vois ce que c'est, un WebA, non.
Alors le CIEM, effectivement, tu vois ce que c'est, hein, c'est le Security Information and Event Management, c'est un truc qui va collecter un petit peu tous les journaux d'événements de sécurité, de ce qui se passe dans le système d'information.
Exactement.
Donc c'est censé t'offrir une vision centralisée sur ce qui se passe dans la boîte. En pratique, j'ai vu assez peu de clients qui en avaient mis en œuvre, hein, pour être tout à fait honnête, durant ces dernières années. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui est fondamental à avoir dans un système d'information. Cela étant, même si c'est important, pour voir un petit peu une tendance de ce qui est en train de se passer sur une infra, c'est pas forcément complet, parce que les menaces qu'on a vues récemment, en fait, sont assez diverses. On n'est plus basé sur des patterns très très communs, on est basé sur plutôt des choses qui sont faites pour des attaques de scénarios bien particuliers. Et puis une fois que l'attaque, l'infection primaire a été faite, en fait, dans un système d'information, eh bien, en fait, on va utiliser des outils standards pour rebondir d'une machine à une autre. Alors, on connaît PSExec, voilà. On connaît ce genre de choses, ben, on va utiliser ce genre d'outillage. Donc, finalement, qu'est-ce qui va permettre de dire qu'il y a un problème dans un système d'information, bah c'est plutôt les choses de comportement. Alors le WEBA, c'est ça, c'est un User Entity Behavior Analysis. C'est une solution qui va te permettre de voir ce qui est en train de se passer en temps réel sur une infrastructure, cette fois-ci non pas basée sur les journaux d'événements de sécurité, mais sur un comportement. Quelque chose qu'on peut trouver suspect dans le comportement d'un initiateur. Par exemple, Pascal, tous les jours, qui est un comptable dans une entreprise, va consulter un ou deux serveurs, rien à voir, hein. Va consulter un ou deux serveurs,
fictionnel.
Voilà, pour son travail de tous les jours.
Voilà.
Et puis, à un moment donné, il va commencer à aller se balader, son compte va commencer à se loguer sur plein de stations de l'environnement et il va commencer à aller sur plein de serveurs de l'organisation. Je crois qu'on peut assez facilement en conclure qu'il y a eu un petit souci dans le système. Mm-hmm. Donc il y a un ensemble de cas, tout de même dans cette phase primaire, on a du mal à déterminer ce qui est en train de se passer avec un CIEM classique. Donc là, la détection de l'environnement, de ce qui se passe dans l'environnement, c'est un complément assez idéal pour ce genre de situation. Alors okay. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a vu qu'effectivement un certain nombre de clients, d'organisations de toute taille qui s'étaient fait pirater, qui ont eu une intrusion dans leur système d'information, en fait s'en sont rendus compte très très tardivement et très souvent par hasard. Donc ce qu'on veut, c'est rajouter cette dimension supplémentaire d'analyse de ce qui est en train de se passer sur un système d'information. Alors je vous ai mis quelques chiffres dans les slides, hein, ce sont des évaluations de groupes produits combinés par Gartner, etc. Donc effectivement, ce qu'on peut en dire pour être synthétique, c'est qu'une fois qu'on a été sous le cadre d'une intrusion, dans le cadre d'une APT, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'argent pour venir à un système d'information de confiance.
Et c'est du concret, on l'a vraiment vécu chez nous, parce qu'on a des clients qui ont été dans ce cas-là, on les a aidés, et c'est effectivement très long.
Donc,
et souvent douloureux.
Exact. Donc, ce qu'on va faire avec ATA, Microsoft ATA, ben c'est ça, c'est un système de WebA. Alors, c'est un nouveau produit qui est sorti il y a quelques mois et qui est depuis quelques semaines en disponibilité. L'idée de ATA, c'est que on va en fait analyser du coup ce qui est en train de se passer sur le système d'information en temps réel. Pour analyser ce qui est en train de se passer en temps réel, on va se plugger en fait sur l'infrastructure en mode port mirroring. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un contrôleur de domaine, on va se mettre en port mirroring. Port mirroring, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écouter tout le trafic qui passe sur ce contrôleur de domaine en mode écoute et en mode passif. Et de ce qu'on va entendre, on va en déduire des patterns classiques d'attaque, des patterns de comportement problématique.
Donc quelque chose que nos amis du réseau connaissent très bien.
Absolument.
Ça fait très bien.
Donc là, on va sur le switch, hein, on dit voilà, le DC, le contrôleur de domaine, il est branché sur le port numéro 3. Sur le port numéro 4, tu me fais un duplicat de tout ce qui se passe sur le port numéro 3. Et donc, on se met avec la machine ATA pour écouter ce qui se passe sur ce port. On se met en mode ce qu'on appelle promiscuous pour le paquet, l'écoute du paquet. Donc en fait, on ne va pas faire le filtrage TCP/IP classique d'une carte réseau. Carte réseau classique, la première chose qu'elle fait, c'est regarde un paquet, est-ce que c'est pour mon adresse IP ou est-ce que c'est un broadcast? Oui, non, si ce n'est pas pour moi, alors je discarde le paquet. Alors qu'en fait, on se met en mode promiscuous, on va écouter tous les paquets qui passent, on va les envoyer up dans la stack et puis on va avoir le logiciel de capture et d'analyse qui va nous donner le résultat.
Cette méthode également a l'avantage qu'on est invisible pour le décès en question.
Il n'y a pas de composant comme un sur le contrôleur de domaine. Ouais. Donc, effectivement, tu n'es pas susceptible d'être compromis si le décès est déjà compromis. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a déjà un composant qui va venir désactiver le filter driver d'analyse de ce qui se passe. Et puis, du coup, ça te met des domaines de sécurité différents dans l'installation ou le setup de la solution. Alors après, c'est une méthode de déploiement qui ne va pas sans un certain nombre de contraintes. Hein. Parce que tu vois bien qu'à chaque fois que tu as un contrôleur de domaine, tu vas devoir avoir une passerelle ATA. C'est une passerelle, hein, le composant ATA qui va écouter le trafic, on appelle ça une passerelle. Donc à chaque fois que tu vas avoir un contrôleur de domaine, tu vas devoir avoir une passerelle qui va écouter. Alors une passerelle pourra écouter plusieurs décès, mais cela étant, il faut quand même faire gaffe beaucoup en matière de montée en charge, parce que ben, écouter tout le trafic d'un contrôleur de domaine, si le trafic de domaine est super sollicité, ça peut être volumineux.
Effectivement.
Donc, y a ça comme premier challenge. Et puis, l'autre challenge aussi, c'est que tes décès ils vont être répartis géographiquement. Et donc, comment est-ce que tu t'assures du port mirroring sur des switches, sur des sites distants, quoi. Est-ce que tu as bien l'infrastructure? Est-ce que tu n'as pas des switches, comme on dit dans le jargon technique du réseau, hein, des switches à 10 balles qui ne te permettent pas de faire du port mirroring? Donc là, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut plutôt du hardware sympathique. Et puis, si tu n'as pas une passerelle ATA qui est positionnable à côté du contrôleur de domaine, comment est-ce que tu vas faire ce port mirroring? Alors sur certains switches, en fait, tu as la fonctionnalité comme ça de faire du remote port mirroring. Donc tu vas en fait prendre le port, le dupliquer sur un port d'un autre switch qui est dans l'infrastructure. Là, c'est pour les switches qui coûtent ce qu'on appelle dans le jargon du réseau turbo cher. Et je ne vise pas une marque couleur plutôt verte en particulier.
D'accord.
Donc voilà à peu près comment on déploie ATA, la passerelle ATA pour être plus précis, pour l'analyse de ce qui se passe en comportement. Et on va aussi coupler ATA, comme tu peux le voir sur le schéma, avec les SIEM, avec les SIEM. Donc en fait, ça va s'intégrer avec l'analyse des composants de sécurité. On va récupérer les logs de sécurité, on va participer aussi aux logs de sécurité. Donc intéressant, on va savoir corréler en fait tout ce qui est en train de se passer sur l'infrastructure du point de vue de notre intelligence et du point de vue de ce qu'on va récupérer du SIEM.
Ok.
Donc, voilà pour la petite intro, pour la partie d'analyse. Donc, en fait, ensuite, on va apprendre. Donc, on va écouter le trafic réseau. Et puis, à partir de quelques jours plus tard, dans la doc, j'avais lu 21 jours plus tard, ça doit être des fans de cinéma qui ont créé ça, eh bien, on va commencer à avoir des résultats probants et intéressants. Comment ça marche, l'analyse comportementale, on va avoir en fait un moteur de machine learning qui va dire ce qui est en train de se passer sur l'infrastructure. Donc, il va détecter des patterns classique usuel, à partir de là va détecter comment est-ce que ça marche dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas une entreprise ça fonctionne pareil hein, normalement. Donc le moteur va apprendre et puis au bout de quelques jours il va dire ben voilà, ça c'est le comportement de base et puis voilà les déviances qu'on a observées dans l'environnement.
D'accord, donc c'est une mise en œuvre vraiment très simple en fait.
En fait c'est tout l'intérêt.
On le laisse tourner tout seul pendant un certain temps, tu dis 21 jours, ça peut être moins.
Ouais.
Et ensuite il verra les différences par rapport à cette base.
Voilà,
les écarts.
Voilà, c'est l'intérêt. Il va faire une baseline, effectivement, de ce qui est en train de se passer. Et puis après, il va en tirer des conclusions. Avec quand même un petit peu d'intelligence dès le début. Hein. Si l'environnement est verrouillé dès le début, il va quand même se rendre compte qu'il y a un problème, que tous les comptes se loguent partout, et que c'est peut-être pas forcément une bonne situation dès le début.
Ouais.
Ça peut être un lien rigolo, hein, mais ça peut être le cas. Des gens qui se rendent compte qu'effectivement, il y a un petit problème.
Ouais, c'est un peu tard pour installer un système de surveillance, mais bon.
Yes. Donc c'est pas basé sur le machine learning d'Azure, hein, c'est un machine learning parce qu'on parle beaucoup de machine learning d'Azure, mais c'est un produit qui est complètement autonome en fait, il n'est pas relié à Azure, donc le moteur de machine learning, moteur d'intelligence de ATA est construit dans le produit en fait.
D'accord. On est sur site.
On est effectivement dans une solution qui est sur site et de par les contraintes que je viens d'énumérer, c'est une solution qui ne pourra pas s'installer dans des contrôleurs domaines qui seraient sur Azure. Et là tu me dis c'est embêtant, mais je te dis cela changera peut-être dans les mois qui viennent, Pascal, sans que je sois autorisé à vous en dire plus. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, une fois qu'on a mis ça en œuvre, l'étape d'après, c'est de détecter ce qui se passe. Alors si on parle de détecter ce qui se passe, qu'est-ce qu'on sait détecter, Pascal ? Problème de risque et de sécurité assez classique. Alors, ce qu'on voit, les abus de confiance, les faiblesses des protocoles, les failles connues des protocoles, bah, Globalement, c'est ce qu'on voit souvent documenté comme du protocole downgrade. Tu vois, on a différents protocoles sur le réseau qui vont discuter. Bah, tu as la possibilité dans une trame réseau d'aller forger un paquet pour abuser la stack et pour dire, bah voilà, ok, tu as un contrôleur domaine, tu sais parler NTLM V2, NTLM V1, tu sais aussi parler LAN Manager, tu peux parler Kerberos. Donc ça, c'est tous les protocoles qui sont proposés par le système quand tu vas échanger entre des machines. Mm. Bah, du protocole downgrade, c'est ça. C'est, tu vas dire, tu sais quoi, en fait, moi, je parle que LAN Manager. Et tu vas faire, ouais, sérieusement, en 2015, tu parles que LAN Manager. Donc ça, c'est volontairement un protocole downgrade où on suspecte que, assez vraisemblablement, c'est un problème
de
sécurité.
C'est pas parce qu'on a oublié un Windows 95 dans un coin, c'est autre chose.
Voilà, ça n'arrive évidemment plus dans aucune organisation, hein, ce genre de cas. Pascal. Les attaques malveillantes. Alors, on parle de différentes choses qu'on peut voir assez classiquement dans les organisations. Hein. Les favoris, c'est le golden ticket, le fameux ticket Kerberos que tu vas forger pour dire c'est moi le patron, c'est moi le chef de l'organisation, qu'en fait tu l'es pas, puis tu n'as pas demandé un ticket Kerberos complet au contrôleur domaine. Donc lui, il va voir que s'il commence à avoir des tickets un petit peu frelatés qui circulent, des tickets qu'il n'a pas émis, il va dire tiens, tu n'es peut-être pas en train d'essayer de court-circuiter le système là. Puis après, les comportements anormaux. Hein. Donc, je le disais, un utilisateur qui a l'habitude d'aller se loguer sur 2 ou 3 workstations, et puis d'un seul coup, hop, il va aller sur 200 serveurs de tous les côtés de l'organisation. Problème assez classique aussi. Problème de reconnaissance aussi qui ne sont pas forcément analysés par les SIEM. Typiquement, tu vas te balader avec un petit scanner réseau, un petit outillage de ton choix, et puis tu vas essayer d'énumérer tous les comptes sur une organisation, soit en brute force, soit avec des protocoles downgrade, lui il va dire tiens, là tu es en train un petit peu quand même de jouer avec les protocoles, tu es en train d'essayer tous les comptes utilisateurs de manière random que tu peux imaginer, ou tu es en train de faire une reconnaissance par port de réseau, et ben voilà, on va savoir détecter ce genre de choses et on va savoir le reporter dans une interface sympa. Ce qu'on voit sur la droite, hein, c'est l'interface d'utilisateur, on verra ça tout à l'heure dans un petit environnement. Le point fondamental d'ATA, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est, tu l'as dit, pas de setup trop avancé au début, c'est toujours
se casser les pieds. Se fait simplement, quoi, automatiquement.
Exactement. Mm. Pas besoin de faire de réglage au début, et puis surtout une interface utilisateur qui est cool, qui est simple à utiliser, avec des recommandations directement utilisables. Cool. Je te propose, puisqu'on est dans concrètement, c'est de regarder à quoi ça ressemble.
Une petite démo. Donc on va passer sur ta machine.
Alors, on passe sur ma machine. Je vais vous montrer mon petit environnement que j'ai configuré ici. Donc là, j'ai un truc qui s'appelle ATA console W2K12. Donc, on vous recommande de passer à Windows 10 hein, sur mon serveur, ce qui est cool.
Mais en même temps,
si j'étais pas en train de browser sur mon serveur, ce serait une bonne pratique de sécurité aussi. Donc là, je suis dans la page d'accueil de ATA, j'ai installé quelque chose dans mon environnement, donc c'est une console centralisée. Donc c'est une console centralisée web qui va venir en fait récupérer les datas de tous les passerelles et puis qui va donc m'offrir une vision sur les éléments synchronisés. Donc, on va mettre mon nom d'utilisateur. Ici, c'est un compte qui est complètement à part de l'environnement de mon Active Directory. Et là, tu vas me dire, mais il est drôlement bien administré ton environnement, Arnaud, puisqu'il n'a aucune activité suspecte détectée. Ce qui est plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est plutôt la partie configuration, en fait. Ouais. Donc là, ce qu'on voit dans la partie configuration, c'est que j'ai simplement spécifié un utilisateur du domaine qui va permettre à ATA de se connecter en tant que tel, mais c'est simplement un utilisateur de base pour aller faire de requêtes LDAP pour faire ces double checks en fait. Tu vois, il va avoir des trucs bizarres qui vont se passer sur le réseau, mais il va juste se connecter en LDAP pour aller vérifier des informations, dire tiens, à quel groupe il appartient, okay. Voilà.
Okay.
Juste de la lecture, il n'y a pas besoin de droits spécifiques dans l'environnement. Donc là, j'ai installé le ATA, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ce qu'on appelle l'ATA Center, hein. Cette console, c'est celle de l'ATA Center. Une fois que tu as installé l'ATA Center, tu vas pouvoir télécharger les binaires d'installation des ATA Gateways, des passerelles. Là, on voit que dans mon environnement, j'en ai installé 3. Donc j'ai ATA 1, 3 et Hyperlan 5. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mis les 3 contrôleurs domaines de mon organisation. Ici, j'ai le 1, le Hyperlan 1, DC01 et DC04 qui sont présents dans mon environnement. Donc, ça, c'est aussi un point important à retenir, c'est que là, j'ai eu ça parce que j'ai fait un NLTest/DCList de points pour avoir la liste de mes contrôleurs de domaine. Mm. Si tu oublies un contrôleur de domaine de ton organisation dans ATA, ben, tu as quand même un petit trou dans la raquette.
tout à fait.
Donc c'est quelque chose qu'il faut être conscient, c'est que si tu veux mettre ATR en place, il faut que tous les décès de l'organisation soient collectés et soient centralisés.
Et donc la partie centralisation donc fait effectivement une centralisation, une collecte complète de tous les événements ?
Alors, en fait, la collecte de tous les événements va se faire sur les passerelles ATA, ouais, qui eux vont garder une partie de l'information et la consolider et la transmettre à la centrale, au central serveur.
D'accord.
Donc le ATA Center récupère pas toute la data. Il y a beaucoup de data qui va rester sur la passerelle en fait. Alors, si on va un petit peu dans le détail ici, on voit qu'on a configuré ça comment en fait. Ici, il nous dit voilà, ta passerelle ATA01, elle va monitorer DC04. Le trafic réseau LDAP va être mentionné par DC04W212-DEMO. Là, j'ai un certificat pour s'assurer que c'est bien cette machine que j'ai configurée. Donc, il y aura authentification mutuelle entre la passerelle et le center ATA. Juste parce qu'on ne veut pas en fait se reposer sur les mécanismes d'authentification de l'AD vu qu'on est en train d'analyser la sécurité de l'AD.
Oui.
Donc authentification mutuelle par certificat. Et puis ici, je spécifie en fait les cartes réseau qui vont être utilisées dans mon environnement pour capturer et pour avoir le contrôle en fait sur la machine. Parce qu'en fait, quand on va faire une interface ici de capture, bah, cette interface-là, tu ne vas pas l'utiliser pour envoyer des paquets à la console.
Oui.
Tu vas prendre tous les paquets sur cette interface-là et tu vas transmettre les résultats sur l'interface qui est utilisée pour la capture.
Une seule qui va être en mode promiscuous,
ouais,
phase d'analyse, et l'autre pour centraliser.
Alors effectivement, si tu as plusieurs décès qui reportent une passerelle, ben là, tu pourras spécifier les différents décès, les différentes interfaces réseau pour ces différents décès.
Ok.
Donc là, on voit que je n'ai pas fait de syslog relais, je n'ai pas fait de collecte des événements de Windows sur cet environnement, j'ai vraiment fait ça très très rapidement.
Mais ça aurait été possible, effectivement, en plus du trafic réseau, de collecter les événements Windows.
Yes. Si on retourne dans ma configuration, j'ai quelques autres petits aspects que je voulais vous montrer avant d'aller sur la console. Hop, on va retourner ici tout en haut. Donc j'ai la configuration du centre ATA. Ici, c'est juste simplement l'URL, le certificat que j'ai généré, que j'ai utilisé pour mon environnement. Donc là, simplement, pareil, le certificat SSL, TLS qui est utilisé pour m'authentifier quand je me connecte, hop, on a un HTTPS par ici. Et pareil, c'est cette URL, ce FQDN-là qui est utilisé par les passerelles ATA pour aller reporter l'information et vérifier qu'ils ont bien l'information au bon serveur. Ensuite, en matière de détection, quelque chose qui sont intéressants ici, quelques sous-réseaux que je veux mettre comme étant des réseaux spécifiquement à beau DHCP de courte durée. Ça veut dire que, en fait, bon, bah, effectivement, mes utilisateurs vont avoir une durée de vie qui seront beaucoup plus rapide que les autres. Du coup, je ne considère pas ça comme suspect, en fait.
D'accord.
Et puis, j'ai quelque chose qui s'appelle le SID du compte HoneyToken. Alors, le HoneyToken, c'est un peu comme un honeypot, sauf que c'est un
jeton Windows, Kerberos.
Ouais. En fait, ce qu'on veut faire avec le HoneyToken, là, c'est mettre un compte un petit peu qui va être désiré comme ça par les utilisateurs et qui va être un petit peu sensible de quand il va être utilisé. Donc un compte que je vais utiliser un petit peu en mode canari, quoi. Pour être le premier à détecter que j'ai un petit problème.
Donc, c'est passé pour un administrateur avec tous les pouvoirs. Et...
Ouais. Ça peut être ça. Il y a même un certain nombre de déploiements, de guidance de déploiement qui dit pour l'HoneyToken, mets le compte admin en fait. Pourquoi ? Parce que tu veux pas que le compte. Certaines organisations ne veulent pas que le compte admin par défaut, et ils ont raison, soit utilisé. Donc ce qu'ils veulent, c'est traquer que dès qu'un mec utilise le compte admin de l'entreprise, le compte du SID 500, eh bien le mec soit repéré tout de suite, soit spoté tout de suite. Donc ils mettent le SID du compte admin built-in du domaine.
D'accord. Ok.
Ça, c'est un mode de déploiement. Après, on peut juste le déployer avec un compte utilisateur classique. Donc voilà à quoi ça ressemble en matière de configuration, le niveau d'alerte. Ensuite, on peut même le spécifier en français. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà à quoi ressemble une interface bien propre où il se passe pas grand-chose. Je te propose d'aller voir un environnement, parce que, désolé, hein, mais cet environnement est bien administré, Pascal. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un environnement peut-être un petit peu plus coloré.
Un peu plus exposé, peut-être.
Voilà, surtout un environnement de démo, en fait. Hein. Donc là, je vous ai passé les complexités, hein, mais sur Hyper-V, c'est relativement simple à faire, un port mirroring dans l'environnement. Allez, on a le temps. sur un petit plaisir.
Très vite.
Allez, très très vite. Ce que j'ai fait là, si je vais dans les propriétés de cette machine-là, je lui ai spécifié sur sa carte réseau que ici, sur la première interface, je n'ai pas de porte mirroring. Par contre, sur la deuxième interface, là, hop, si on voit la partie porte mirroring, j'ai destination. Donc là, c'est mon ATA passerelle. On va sur le contrôleur de domaine, la carte réseau Advanced Features, et là, je vois source. Ah. Donc, c'est la source, le contrôleur de domaine, j'envoie vers destination mon
la passerelle
ATA. Yes. Merci Pascal d'avoir relevé cette petite incohérence. Donc, on y retourne. On va aller sur la passerelle, cette fois-ci, qui est carrément plus colorée. Hop. Donc, ce qui est assez intéressant, ce que les gens aiment bien dans cette interface, c'est qu'en fait, c'est assez, assez Facebook-like, en fait, dans l'organisation. C'est-à-dire que tu as une timeline qui apparaît et tu vois une séquence des choses qui sont passées dans l'environnement et que, du coup, tu peux ensuite aller analyser comme ça, de proche en proche, ce qui s'est passé et faire une investigation intéressante. Donc là, je suis logué dans ma console. Ce que les gens aiment bien, c'est qu'effectivement, on a une vue plutôt timeline dans cet environnement. Donc là, tu vois que je peux, hop, revenir un petit peu en arrière dans le temps et voir ce qui s'est passé sur mon environnement. Donc là, tu peux dire, tiens, il s'est passé service exposing account credentials. Donc là, tiens, il y a un compte là, sur un serveur où il y a 13 comptes qui se baladent tranquillement et qui font du LDAP simple bind. Donc là, des gens qui se connectent en mode un petit peu à l'ancienne avec du LBind en mode clear text, hein, pas de souci. Mm-hmm. Là ensuite tu peux dire tiens une OnlyToken activity, donc là il y a un utilisateur qui a utilisé cet utilisateur là, donc là c'est le cas où on a pris un compte soi-disant privilégié qui est logué sur cette machine là et qui a essayé de demander un ticket Kerberos, donc le premier ticket, le TGT. Donc il essayait de se loguer et tout est interactif, hein. Tu peux aller voir sur Super User. Donc là tu peux voir que Super User Membership, tu vois en fait c'est un piège parce qu'il est juste domain user. Tu peux voir les statistiques sur il a changé de mot de passe à tel moment, il a eu un mot de passe qui expirait à tel moment, un résumé de l'activité Kerberos. Donc là on voit que la dernière fois c'était au mois de septembre, donc il n'a pas été utilisé beaucoup. Et puis tu peux voir les activités de cet utilisateur et puis les activités suspectes récentes. Donc là effectivement il a été utilisé sur cette machine-là de manière un petit peu bizarre. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment super interactif. Tu peux aller voir un petit peu tout ce dont tu as besoin, cliquer sur les éléments et puis essayer d'investiguer comme ça les infos. Alors, si on revient un petit peu arrière dans la time frame, hein, on peut comme ça en fait voir de bout en bout ce qui s'est passé. Donc, le OnlyToken Activity, là, pareil, hein, si je veux, je peux aller voir ce qui est en train de se passer sur le DC, voir les statistiques du DC, voir cette machine-là, quelles ont été les activités, donc External Vendor, TS, cette machine, on peut aller voir dessus que, tiens, il y a eu quand même des choses un petit peu bizarres qui se sont passées. Dans les utilisateurs qui sont connectés dessus, il y a eu Administrator, et puis il y a eu plein d'autres mondes. Et puis tiens, c'est bizarre, cette machine, elle a été discutée, bon, avec DC01, avec client 01, et puis avec external vendor TS. Pas grand-chose de bien intéressant ici, mais on voit ce qui a été fait, tu vois, comme activité dans les protocoles de la machine. Si je veux voir dans les suspicious activities, on va voir que cette analyse de cette machine, ben, j'ai bien... Ici, il y a différentes séquences qui sont venues, donc de la reconnaissance, de l'activity sur le OnlyToken, et puis ensuite tout un enchevêtrement de choses en fait. On voit qu'ensuite, j'ai eu une brute force qui a été faite en utilisant un LDAP Simple Bind. On voit que il y a un compte qui a été compromis dessus. Ouais. Là, j'ai bien un compte qui a été pris. Et puis ensuite... Je vois ici qu'effectivement, Michael Dubinsky, ici, habituellement, il va sur deux machines, et puis là, il a quand même été consommé six machines non habituelles, et puis il a été utilisé pour se loguer sur deux serveurs non habituels, donc deux workstations et quatre workstations, pardon, et deux serveurs classiques pour accéder à cinq ressources différentes. Donc, je peux aller voir à chaque fois les détails de ce qu'il est en train de me reporter. Je peux exporter les choses dans Excel pour en faire une analyse un petit peu plus détaillée. et puis là, je verrai depuis telle machine, il a été slogué sur tel DC via tel DC. Donc là, il était connecté sur serveur 04 en demandant un ticket à DC01. Et je peux revenir comme ça, en fait, tout en mode interactif dans la timeline de ce qui s'est passé avec ce compte utilisateur. Donc, je crois qu'on peut dire, sans trop s'avancer, Pascal, que c'est légèrement plus sexy que la plupart des outils de sécurité qu'on a pu voir jusqu'à présent.
Tout à fait. Les outils de corrélation, en général, sont beaucoup moins sexy, comme tu dis, que cela. Et c'est du concret, parce que si dans la plupart des cas qu'on a eu à investiguer avec nos clients, si on avait eu ce genre d'outils, ça aurait été vraiment très pratique pour pouvoir remonter directement aux événements ayant causé la compromission.
Voilà, Pascal, ce que je pouvais te montrer le plus rapidement possible sur ATA.
Eh bien, Arnaud, merci beaucoup. On se retrouvera sur d'autres sujets techniques ensemble. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une semaine donc, pour un nouvel épisode. Au revoir et merci.